d'ici et d'ailleurs. Terre, d'ici et d'ailleurs.
Didier Hubert, Madafumet.
Amis de terre d'ici et d'ailleurs, bonjour, bienvenue à votre émission de ce matin. Le titre, l'accaparement des terres ou la vente des terres en Afrique et surtout au Bénin. En 2010, la Banque mondiale avait déjà tiré le signal d'alarme. Faute d'une gouvernance foncière adéquate, avait-elle averti, ces transactions autour de la terre, de plus en plus nombreuses avec la hausse des prix agricoles, risquaient de se faire aux dépens des petits agriculteurs. Or, c'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour faire décoller l'agriculture des pays les plus pauvres. Il y a quelques semaines, l'ONG INDA est aussi montée au créneau pour alerter sur le cas du Mali, du Sénégal et du Bénin. Dans ces pays, à ce qu'il paraît, le pourcentage des terres vendues à des multinationales prend des proportions ahurissantes. Les causes et les effets de ces transactions et puis les conséquences, c'est autour de ces préoccupations que va se dérouler votre émission de ce matin. L'invité à nom, René Segbenou, président du réseau Djinoukou. Monsieur Segbenou, bonjour.
Bonjour, monsieur Bouanou Madafi.
Monsieur Segbenou, vous savez bien comme moi que ces transactions existaient, mais portaient sur une faible échelle. C'est souvent un fonctionnaire qui, pour assurer ses vieux jours, achetait 1, 2 ou tout au plus 5 hectares pour en faire une ferme. Et puis un matin, le plafond a été crevé. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Comment on est passé d'une extrémité à une autre? On a assisté à une véritable course pour l'achat des terres les plus fertiles. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé qu'en 2008, on a noté un regain d'intérêt pour l'achat massif, sinon pour l'accaparement des terres. C'est dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique ni seulement au Bénin. Il s'est passé qu'en 2008, il y a eu une crise qu'on a appelée la crise alimentaire, vous vous souvenez. Mais en fait, c'était une crise de pouvoir d'achat, parce que les denrées alimentaires étaient sur le marché, mais étaient devenues plus chères, parce que ceux qui les mettaient sur le marché avaient réduit la quantité. Par exemple, le riz en Asie, ils en avaient besoin et donc ils n'ont pas exporté du riz. Les Américains ont utilisé du maïs pour faire de carburant et ainsi de suite. Donc, il y a eu rareté. Et donc, à partir de là, certains pays qui étaient dépendants de ce marché ont dit, eh bien, pourquoi nous n'allons pas nous-mêmes produire nos denrées alimentaires? Or, la plupart de ces pays ne pouvaient pas le faire chez eux. Et donc, ils se sont portés vers l'extérieur à la recherche de terres arables où ils peuvent produire ces denrées alimentaires. Et vous allez voir qu'au nombre de ces pays, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, c'est le désert, la Libye, la Corée, la Chine, à cause de la population, et ainsi. Donc, il y a ces pays-là qui se sont remis à chercher de la terre. Et du coup, ils se sont tournés vers les endroits où ils peuvent en trouver. Ça, c'est une première cause. Une deuxième cause, c'est que dans le même temps, il y a eu ce qu'on appelle la crise financière. Vous vous souvenez, aux États-Unis, l'immobilier, il y a eu ce qu'on appelle la bulle. Et les investisseurs ont perdu. Ils se sont dit, mais quel refuge, quel meilleur refuge on peut trouver maintenant pour nos capitaux? Ils se sont retournés vers des terres. Des terres agricoles ou des terres seulement à acquérir aux fins de spéculation.
Et voilà, il n'y a, comment... que l'Afrique pour offrir cette possibilité-là.
Ben, monsieur Madafi, vous voyez, la Banque mondiale, le rapport dont vous parlez, la Banque mondiale a recensé dans le monde ce qui existe encore comme terres disponibles. Il y en a 445 millions d'hectares. Et tenez-vous bien tranquille, de ces 445 millions, 200 millions sont en Afrique. Et du coup, vous voyez, les gens, même le travail de la Banque mondiale, c'est comme si la Banque mondiale allait rechercher et puis dire aux gens, attention,
il y a des terres en Afrique.
En Afrique, voilà, il y a des terres inexploitées, ça, d'après eux, inexploitées. Et donc, voilà ce qui a fait que les gens se sont déportés massivement vers l'Afrique. Mais il y a d'autres raisons encore pour l'Afrique. Vous voyez, ces gens qui cherchent à faire ce genre de transactions, ils recherchent là où ça va être facile. Et on a constaté que dans les pays en développement, en particulier en Afrique, la gouvernance est faible. l'État n'a pas la capacité de négociation, encore moins les communautés locales. Les gens sont illettrés, ne sont pas informés des contrats, et donc les gens profitent de cette
de la faiblesse des droits fonciers.
De la faiblesse des droits fonciers, de la faiblesse des capacités des gens à négocier pour aller là où c'est plus facile d'acquérir, donc de s'accaparer pour nous des terres. Voilà comment est-ce que on en est arrivé là. Ce qui a fait que en 2008, vous voyez, Djinoukou, avec Grain, qu'on connaît maintenant, ont été les premiers à aussi tirer sur la sonnette d'alarme. Ici, à Cotonou, on a fait une conférence de presse sur le phénomène de l'accaparement des terres, parce que c'est à cette période-là que ça s'est passé. Vous voyez, avant 2008, et les terres agricoles augmentaient dans le monde, supposons à 4 millions. De 2008 à 2009, on n'est même pas arrivé vers la fin 2009, c'est passé à 45 millions d'hectares. Vous voyez, donc ça veut dire que cette période-là a été une période terrible pour, disons, pour nous, parce que les gens ont commencé à se ruer, n'est-ce pas, sur nos terres agricoles pour produire pour eux. Et on a noté que ces terres-là qui sont recherchées, aujourd'hui, 37% sont utilisées pour produire des céréales à exporter vers les pays de ceux qui sont venus s'accaparer des terres.
C'est-à-dire que les gens viennent acheter les terres ici, oui. Les utilisent, oui. les mettent en valeur, oui. Produisent des biens qu'ils oui. envoient dans leur pays.
Voilà. Et on a vu dans des pays, c'était comme le Cameroun, la Chine est arrivée, voilà, il a fait du riz, mais le riz est parti en grande majorité en Chine. D'ailleurs, nous aussi, on a un cas ici. Par exemple, la sucrerie de Save, c'est les Chinois qui ont repris ça. Mais où est le sucre
qu'ils produisent?
Ou sur le marché ici. Les gens de la zone nous ont dit, au cours d'une conférence publique, ils ont dit, mais cherchez où se trouve le sucre.
Donc le sucre qui est produit à Save est envoyé
directement en Chine.
Oh. Mais M. Segbenon, en attendant de venir aux activités de Djinoukou pour oui. dénoncer ces genres de transactions, on sait que pour la grande majorité des sociétés africaines, la terre est considérée non pas seulement comme un bien économique ou environnemental, mais également comme une ressource sociale, culturelle et ontologique. La terre demeure un facteur important dans la construction de l'identité sociale, dans l'organisation de la vie religieuse et la production et reproduction des cultures. La terre, dans ces conditions, est partie intégrante de la spiritualité même de la société. Alors, en les vendant, on est en train de rompre une chaîne.
Monsieur Madaf, ce que vous avez dit là, il faut l'écrire et diffuser largement. Parce que pour nous, la terre n'est pas une marchandise. Et c'est ça qui nous a sauvés par rapport à d'autres continents et à d'autres pays. La terre n'est pas une marchandise. Vous voyez, dans le temps, dans le régime coutumier, quand un peuple se déplace d'un endroit et va à un autre, il ne demande pas à acheter la terre.
Non. La terre lui est donnée.
On lui donne l'autorisation de s'installer et de profiter aussi de la terre. Parce que la terre, c'est toutes ces richesses-là dont vous venez de te parler. C'est ça pour nos gens. C'est ça qui a fait que au Bénin, par exemple, il n'y a pas une terre libre comme ça. Il y a toujours des peuples, des grandes familles, des clans qui sont. Et dans chaque communauté, vous allez voir qu'il y a un rôle important qu'on donne aux chefs de terre.
Alors, pour vous appuyer, dans ma communauté, par exemple, il y a des gens qui ont des terres individuelles, mais il y a une terre pour la communauté. Voilà. Et c'est le chef de village qui gère ça. Exactement. Et ça passe de génération en génération.
Exactement.
Donc, en vendant cette terre, il y a quelque chose qui est parti, identité qui s'en va.
Oui, en vendant la terre, non seulement on crée des problèmes, on peut créer des conflits. Parce que chez nous, le droit est communautaire. Comme vous avez bien sûr le dire, la plupart des terres sont possédées par des communautés. Donc on ne peut pas identifier comme ça un propriétaire, c'est difficile. Alors vous voyez, comme notre société aussi change, nos pays rentrent dans des économies de marché. Et donc petit à petit, nous sommes dans la monnaie et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, les gens commencent à essayer de monnayer les terres comme une marchandise pour obtenir comment d'énumérer de l'argent, des revenus et énumérer. Et ça pose des problèmes. Non seulement il va y avoir des conflits, mais ça rend des chaînes culturelles des gens. Et ça peut perturber toute une famille, ça peut perturber les gens. Pas seulement au cours.
Parce que les gens ne peuvent plus se retrouver.
Ils ne se retrouvent plus. Ils n'ont plus la même conception de la terre. Ils sont perturbés. Et donc, voilà tous ces problèmes-là qu'on peut créer. Heureusement pour nous, ça nous a aidés. Et cette fois, c'est pourquoi vous allez voir qu'au Bénin, si vous êtes même petit producteur, vous avez la chance d'accéder à la terre. Peut-être pas à une grande surface, mais vous avez la possibilité d'accéder. Mais
juste ce qu'il vous faut pour nourrir votre famille.
Voilà, parce que la communauté, les clans, tiennent compte. On prend ça en charge. Dans d'autres pays où il n'y a pas eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que nous avons appris dans l'histoire, les latifundiaires. Donc, des riches ou des gens politiquement bien installés arrivent et négocient facilement et obtiennent de grandes concessions. Vous voyez, 100, 300, 500 000 hectares. Et ils s'installent là-dessus. Ce qui a créé en Amérique latine, aujourd'hui au Brésil, dans certain nombre de pays, ce qu'on appelle les sans-terres. Et il y a aujourd'hui le mouvement des sans-terres.
Oui, c'est ce qui s'est peut-être passé au Paraguay. Vous avez suivi l'information. Le 17 juin, les militaires sont allés déroger des paysans qui squattent les terres d'un riche homme. Le bilan, c'est 17 morts. À ce qu'il paraît, 85% des terres agricoles appartiennent à 2,5% des gens, alors que la grande majorité des agriculteurs vivent sans terre.
Alors, monsieur, voilà.
Ça peut être source de conflit, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que... Si on continue comme on le fait aujourd'hui dans notre pays, est-ce qu'on peut se retrouver dans ce schéma-là?
Ouais, vous voyez que votre émission vient bien à propos. Ce matin, quand j'ai écouté ça sur RFI, j'ai dit, mais il est temps, il est plus que temps qu'on continue d'informer les gens, vous voyez. C'est ça, c'est ce que nous voulons, nous, par exemple, éviter à notre pays, éviter à l'Afrique. C'est ce qui va se passer. Si on continue impunément de trouver des moyens, parce que c'est souvent des arrangements. Vous avez vu, dans le cas du Paraguay, c'est des arrangements. Alors, comme le grand propriétaire, le richissime propriétaire, est du côté
du pouvoir.
Non, il n'est pas du côté du pouvoir actuellement.
De l'opposition.
Voilà. Or, l'opposition, dans ce pays-là, est contre toujours la réforme agraire. Vous voyez, l'ancien évêque qui a été élu président du pays,
il est
plus proche des populations. Et lui, il voulait faire la réforme agraire. Malheureusement, pour
lui. Et c'est
lui,
ça qui a fait qu'il a perdu le pouvoir.
Mais justement, les autres ne veulent pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a le mécanisme, c'est ça. Vous voyez, c'est comme chez nous ici.
Mais comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne?
On identifie les têtes dans une zone, on va voir les populations. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un pour qu'il laisse très facilement sa terre, celle qui lui donne à manger, qui donne à manger à ses enfants? Quel argument les gens tiennent?
Il faut commencer par dire que ceux qui brattent les terres, ce n'est pas d'abord même les individus, les communautés, ça a commencé par les États. Ce sont nos États qui bradent les terres chez nous. Et comment, à ce niveau, quel est le mécanisme? Le mécanisme, c'est tout simplement que d'abord, il faut vous dire que l'accaparement des terres repose sur une conception particulière de l'agriculture. Vous voyez, un certain nombre de cadres de chez nous, au ministère de l'Agriculture, ceux qui font les plans et autres, un certain nombre parmi eux, pour régler le problème de la production agricole.
Il faut l'agrobusiness.
L'alimentation des populations, pour nourrir les populations. Il faut installer de grands espaces de terre. Il faut installer l'agrobusiness, comme vous avez dit. Parce qu'ils n'ont pas foi aux paysans qui travaillent sur les exploitations familiales. Or, ils se trompent depuis leur naissance.
C'était ainsi.
Non seulement ça, mais c'est
ils eux qui nous nourrissent. Ils ont été élevés ainsi.
Mais c'est ceux-là qui nous nourrissent. Le manioc qui est sur le marché aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un produit de l'agro-industrie?
Non.
L'igname.
Ce sont des paysans qui
maïs,
ont produit.
Ce sont des paysans. Et vous savez, lorsqu'il y a eu, en 2008, la crise, notre gouvernement a fait un plan rapide pour essayer de produire.
Un plan d'alerte.
C'est dommage, j'ai oublié le nom. Mais voici ce qui s'est passé. Ils ont mis des moyens au profit des producteurs de riz et de maïs.
Oui, en leur donnant des motopompes.
Et à l'aménagement. Voilà. Et il s'est trouvé que ces paysans ont produit beaucoup plus que même ce
énormément.
Que, et non plus ce que nous pouvions consommer. Et nous avons eu le plaisir de voir qu'il y avait plus de riz. Malheureusement, de comme on ne s'est pas bien organisé, il n'y avait pas le marché, ou bien même on n'a même pas pu traiter le riz qu'on a produit. Et on a, à un moment donné, on a même donné du maïs. Et on a vendu du riz, on a donné du maïs à d'autres, à l'extérieur, au Niger. Vous voyez, donc, l'accaparement des terres part du fait qu'il y a un certain nombre de gens dans notre société, ceux qui décident, qui ne croient pas à l'agriculture familiale, au rôle des paysans dans la production nationale.
Et ils veulent les remplacer. Ce qui a été fait à l'époque devait donner l'exemple.
Ah, voilà.
Pour montrer que, en fait, si on organise bien les filières, les paysans peuvent mieux produire. Voilà. Ça devait être un exemple.
Au lieu de poser les vrais problèmes, de rechercher les vraies solutions, c'est-à-dire comment financer l'agriculture chez nous. Vous voyez, aujourd'hui, le paysan n'a pas accès au crédit. Difficilement,
il n'y a même pas une banque.
Il n'y a pas de banque qui s'occupe de lui. Et quand il veut, il y a tellement de conditions qu'il ne peut pas. Donc, on ne finance pas l'agriculture. Il y a le problème des terres. Il faut s'occuper des terres. Il y a l'eau, l'aménagement et la gestion
Parce qu'aujourd'hui, pour produire, on ne peut plus regarder le ciel.
En attendant la pluie, on doit
produire à tout moment en faisant des aménagements.
Mais au lieu de régler ces problèmes-là, les gens se tournent vers l'extérieur et ils disent oui, il nous faut installer des ranges. Et vous allez voir que le plan stratégique de relance du secteur agricole de notre pays, si ce n'était pas que les paysans, les organisations paysannes se sont organisées pour essayer d'influencer ça. Mais on allait droit dans le mur. Et même avec ça, je suis sûr qu'à des moments donnés, je ne sais pas si les paysans auront
cette pression-là.
Pour... Mais en tout cas, ils y sont. Je suis proche, je sais qu'ils luttent pour ça. Donc, voilà, si vous ne croyez pas à votre agriculture, vous allez maintenant penser que d'autres vont venir faire pour vous. Et c'est comme ça. Il y a eu un ministre de l'agriculture de ce pays, ce sont des collègues qui nous ont dit ça, hein, qui a invité un certain nombre de cadres consultants. On leur dit vraiment, cherchez-moi dans ce pays-là. Où sont des espaces libres où on va installer des espaces? Parce que les gens viennent de l'extérieur demander 100 000, 200 000, 300 000 états. Et il a envoyé les cadres chercher. Mais heureusement pour nous, ces cadres-là, peut-être ils étaient aussi, ils ont pensé, ils sont revenus lui dire, mais monsieur le ministre, il n'y a pas de terre. Non, il n'y a pas de terre libre, sans propriétaire.
Oui, monsieur Segouanou, si ce n'est pas trop vous demander, oui. Est-ce qu'on peut faire une catégorisation géographique des zones les plus touchées?
Ah, ici au
Bénin, au Bénin.
Alors, je vais vous dire, les chiffres que je vais vous donner viennent de Synergie Paysanne, qui est un syndicat paysan. Voilà. Et je dois dire que dès que nous avons soulevé le lièvre, comme on dit ici, ce syndicat a été le premier à s'accrocher à ça, comme pour défendre les paysans, le droit des paysans. Et ils ont fait beaucoup d'études, je vous assure, sur l'accaparement des terres au Bénin. Et ils ont recensé. Alors, je vous donne ici les zones les plus concernées par l'affaire chez nous ici. Il y a Tori, ce qu'ils ont pu recenser. Il y a 20 000 hectares concernés par l'accaparement des terres. C'est-à-dire que les gens utilisent des moyens plus ou moins légaux.
On va revenir aux moyens.
Voilà, 20 000 hectares. Tchaourou, 12 300 hectares. Vous avez Ouessé, zone touchée, 12 030 hectares. Et Zé, 5 612. Savé est touché, plus de 4 000 hectares. Sogodomé, plus de 3 500 hectares. Et vous avez Djidja, 3 500 et plus d'hectares. Et il y a aussi des phénomènes, à Djaouéré. Plus de 2 500 hectares sont touchés. À Gomekaravi, à côté de nous ici, 1 700 hectares. On a Djougou, plus de 1 700 hectares aussi. Tofo, 1 370 hectares. Ça fait à peu près, aujourd'hui, ce qu'ils ont recensé, environ 73 000 hectares qui sont en train d'être partis comme ça.
Il faut rappeler que ce sont des chiffres de synergie paysanne.
Ce sont des chiffres de synergie paysanne. Et je dois dire qu'ils font ce travail dans des conditions très difficiles. Vous savez, quand on va venir sur le mécanisme, c'est toujours secret.
Oui, on y va en même temps. Alors, voilà. Quels sont les moyens qui sont utilisés pour amener les gens à laisser les terres, ou amener des communautés à laisser des terres?
Voilà, et je reviens là-dessus. On avait parlé de l'État tout à l'heure.
Et voilà.
Alors, ce qui se passe chez nous, c'est la plupart du temps, il y a toujours quelqu'un, soit de la région, ou qui passe par les ressortissants de la région, les élus, ceux qu'ils connaissent. On va voir les populations. Ou bien même directement, comme ils sont des élus locaux, on va voir les populations et voilà, on va vous amener un grand projet ici. Mais nous avons besoin
de
terre. Voilà, pour ça. Et donc, si ça vient, vous aurez du travail, les jeunes vont avoir du travail, vous-même, ouais, on va faire des choses, on va vous apporter des choses. Et ça s'est passé, hein? On a vu le mécanisme à Diabre, un notable du coin est allé voir les communautés, les 9 communautés réunies qui exploitaient des terres qui avaient été, comment on appelle ça, c'était au temps de la Révolution. Ouais, il y avait des fermes d'État,
oui,
les fermes d'État délaissées. Et l'État a concédé cette ferme-là aux communautés, les 9 communautés qui exploitaient ça. Et avec ça, ils ont réalisé de bonnes choses. Ils ont construit des centres de santé avec les produits, les revenus de cette exploitation. Un beau jour, un élu du coin va les voir et dit, voilà, je vais amener un projet ici, vous aurez du travail. Et puis même, je vais vous payer une redevance annuelle. Et je pense, là, je ne sais plus de combien, est-ce que c'est 50 000, est-ce que c'est 50 millions par an. Et les paysans, les communautés, les
nôtres,
ont cru en lui. Ils ont signé un contrat avec lui. Pour que et ils se sont dit, il est de notre région, il est de chez nous, il va faire du bien pour nous quand même. Et un moment après, il ne voyait plus rien. Il a fait quelque chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, plus rien. Il ne voyait plus rien. Et ils se sont comportés comme les paysans là, au Paraguay.
Ils sont retournés
pour exploiter les terres que l'autre leur avait prises. Et qui ne disait plus rien. Vous savez ce qui s'est passé?
Trop tard.
Ah, mais vous savez ce qui s'est passé? L'autre, il a sorti un papier. Puisqu'il leur a fait signer un papier. Vous voyez, c'est comme ça. Et les pauvres, ils ont signé le papier. Ils n'ont pas lu vraiment ce qu'il y avait dedans et en confiance. Ils n'ont même pas gardé une copie de ce papier-là avec eux. Et l'autre sort le papier. Il dit, désormais, mais moi, je suis propriétaire. Et confirmé, il va voir la mairie. Et on dit, je suis propriétaire. Et les gens, comme les gens n'en pouvaient plus, ils sont retournés exploiter le coupé du bois parmi eux. Vous savez qu'on les a mis en prison.
Ils sont devenus des esclaves sur leur propre terre.
Ah non, mais oui, il les a emprisonnés.
Mais voilà.
Et la justice, heureusement qu'il y a eu encore une fois synergie paysanne, et s'est mis quand même du côté de ces paysans. Ils ont recherché des conseils juridiques pour pouvoir aider ces communautés. Sinon, ils s'étaient livrés, on les a emprisonnés.
Monsieur Sabine, on va voir très rapidement les conséquences, parce que le temps est en train de partir.
C'est vrai.
Les conséquences, très rapidement, qu'est-ce qui peut se passer si la tendance se maintient? Qu'est-ce qui se passe pour le paysan, pour le pays même? Qu'est-ce qui peut se passer?
Je vais commencer par les paysans. Ça continue comme ça. D'abord, on va leur arracher leurs terres. Et ce n'est pas seulement... Ah oui, vous savez, nous avons un slogan à la COPAGEN, la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain. On a un slogan qui passe partout maintenant. Ne touche pas à ma terre, c'est ma vie. Pour que les paysans puissent lutter autour de ça. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Quand on prend les terres, là, on les prend avec les autres ressources. Vous voyez, les gens n'ont plus accès...
À la biodiversité.
À la biodiversité. Ils n'ont plus accès à l'eau. Il y a un certain nombre de choses qui avaient
les
ressources. Oui, la faune, la chasse, ils ne peuvent plus. Et donc, vous voyez, donc on leur prend tout ça. Et ils vont...
Donc on les installe de plus en plus dans
la
pauvreté.
Dans la pauvreté, dans la précarité, pour commencer. Et vous voyez. Alors, ils vont vivre ça pendant un moment. Et vous savez, l'être humain, à un moment donné, ils se disent, mais c'est quoi? Pourquoi on nous fait tout ça là? Et eux aussi, ils vont commencer à réclamer ce qui va apporter des conflits. Des conflits sociaux et des oppositions et ainsi de suite. Donc, on peut aller jusque-là.
Maintenant, alors, pour l'État.
Ah, pour l'État, oui, qui fait ça? D'abord, l'État qui fait ça, il va perdre sa souveraineté sur les terres. Et s'il les a bradés. Et malheureusement, si jamais les gens avaient des titres fonciers là-dessus, il sera lui-même coincé et il n'aura pas les ressources en terre. Ensuite, lui-même, il va vivre des conflits sociaux. Et qui peut voir aller jusqu'à ce qui se passe maintenant, vous voyez, au Paraguay. Mais avant ça, à Madagascar, vous savez qu'aujourd'hui, ça ne va pas.
C'est
mais
ça qui a fait partie.
Comment le président de Madagascar.
L'ancien président malgache.
Voilà, 2 millions d'hectares, il a bradé ça avec une société. Bon, je ne sais pas qu'on appelle des ou dans le temps là. Et ça l'a fait partie. Donc, nous pensons que d'abord, il faut dire que, d'une façon générale, si ça continue comme ça, c'est la souveraineté alimentaire du pays qui est mise en danger.
Oui, oui, monsieur Sagouen, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, nous sommes déjà dans la situation. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce qu'il est nécessaire de faire des réformes dans le domaine foncier pour éviter ce genre de choses?
Alors, je vais vous dire, nous sommes...
Très rapidement.
On est si conscients de ça que, vous voyez, nous sommes un certain nombre d'organisations, d'ONG maintenant. On s'est mis à ce qu'on appelle Alliance. Alliance pour un code foncier et de manière consensuelle et équitable pour les populations. Parce que notre pays a commencé là à élaborer un code foncier et de manière. Or, le code foncier et de manière, c'est là où on va mettre les dispositions pour l'accès à la terre.
Donc, vous faites attention à tout ce qui est dedans.
Et donc, on est en train, pas plus tard que le samedi, on a fait une relecture de ce côté-là, pour voir ce qui est dedans et qui pourrait nous permettre d'abord, il faut en chasser dans ce côté-là des dispositions pour freiner, sinon éliminer l'accaparement des terres. Et donc, il y a plusieurs organisations ensemble. Et nous, on commence par dire ceci. Ce côté-là, un, il faut absolument que dedans, on essaye de mettre des garde-fous. Par exemple, interdire le titre foncier aux étrangers.
Voilà.
Que les étrangers n'aient pas de titre foncier sur les terres chez nous. Limiter.
Ils peuvent louer les terres.
Oh, mais ils peuvent, dans des conditions données, ils peuvent travailler et exploiter des terres, mais ne pas leur donner de titre foncier. Parce que le Bénin, c'est un petit pays et ce n'est pas élastique.
112 000 km².
Deux, limiter l'accès. C'est-à-dire, pour nous, on dit un individu qui a 50 hectares, c'est bon. Une société qui veut exploiter, qui a 100 hectares, en propriété, c'est bon. À partir de là, s'il veut exploiter plus, il faut qu'il rentre dans des dispositions qui sont prévues, mais qui ne lui font pas acheter la terre avec le titre foncier. Parce que s'il a ça, ce n'est pas bon. Pour demain, on aura des problèmes comme ça va se passer là. Ensuite, il faut sensibiliser les communautés rurales et les paysans. Parce que parfois aussi, nous avons vu le maire de Djidja, il est venu à une conférence publique que nous avons faite. Il est en train d'essayer de lutter contre ça dans sa commune. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui vont contre lui pour dire, mais ça nous appartient, nous voulons faire ce que nous voulons avec notre terre. Non. S'ils font ça, ils créent des situations difficiles pour les générations à venir.
Monsieur Sagbeno, dans une minute, nous allons quitter ce studio.
Déjà, oui.
Bon, je vous laisse le mot de fin.
Le mot de fin, c'est de dire vraiment aux communautés là de chez nous, la terre, c'est vrai, c'est votre vie, ne renoncez pas à ça. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sale. La terre, ce n'est pas seulement une marchandise pour nous. C'est notre vie. Il ne faut pas brader ça. Il faut que...
Ça renforce le lien entre communautés.
Entre membres d'une communauté. Et ensuite, ça assure les ressources pour produire et pour nous maintenir. Deux, on s'adresse aussi aux autorités et politique de notre pays, l'État, les élus.
Il ne faut pas se laisser influencer
par les grands projets. Et aussi, il faut dire que parmi nous, il y a des gens aussi qui ont des intentions, ils veulent prendre les terres des autres. Que ce faisant, ils sont en train de créer des problèmes pour demain. Si nous voulons la paix chez nous pour longtemps et que la génération future puisse vivre et exploiter les ressources, soyons raisonnables et ne faisons pas des choses qui vont hypothéquer l'avenir de notre pays. C'est pour ça que nous sommes en train de lutter. Voilà. Mais le temps est court. Hein.
Oui, oui, voilà, ça passe assez vite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons revenir, si vous avez le temps, nous allons revenir sur ce sujet, parce que c'est un sujet important. Oui. Il faut attirer l'attention de tout le monde. Oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin de Terre d'ici et d'ailleurs d'aujourd'hui. Le titre, c'est l'accaparement des terres ou la vente des terres en Afrique et surtout au Bénin. L'invité à nom, René Segbenou, il est le président du réseau Djinoukou. Au revoir et à lundi prochain. Prise de son, Lionel Begondé. Réalisation et présentation, Didier Hubert, Madafina.